Bonjour Marie-Laure Barbé-Miliero, merci d'être avec nous.
Oui, bonjour Sandrine et bonjour à tous les auditeurs.
Merci. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs ?
Oui. Alors, je suis Marie-Laure Barbé-Miliero. Je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute en libéral en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine. Je travaille auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes autour de l'angoisse de la séparation et de la peur de l'abandon, suivant les différents stades du développement. Et je fais partie de l'association AP21, où se regroupent des psychologues catholiques qui travaillent ensemble dans un esprit de cohérence entre leur foi et leur métier de psychologue. Donc aujourd'hui, je vous invite à réfléchir ensemble sur le lien qui existe entre la foi et la psychologie. Alors c'est bien sûr un sujet très vaste, mais c'est avec joie que je vais aborder avec vous une partie de ce vaste sujet. Donc comme introduction, j'aimerais vous définir le but de cette intervention. L'idée est de pouvoir considérer la psychologie et la foi comme complémentaires, sans chercher à les opposer. En effet, la foi, qui est l'expression de l'âme, et la psychologie, qui concerne la connaissance de l'homme, sont deux composantes majeures de notre nature humaine. Et le but de notre vie de chrétien est de faire l'unité entre notre vie spirituelle et notre vie psychologique. Le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui concerne le péché originel. En particulier, je souhaite réfléchir avec vous sur une des conséquences du péché originel du point de vue de la psychologie. Précisément, je vous invite donc à poser un regard sur notre humanité blessée. Alors, l'homme est blessé par le péché originel, l'homme avec un grand H, et j'en parlerai souvent dans cette émission. L'homme a perdu sa nature parfaite, celle proposée par Dieu dans la perfection de l'amour. L'enjeu humain est donc une question d'amour et de perfection d'amour auquel Dieu nous appelle, mais que nous avons perdu. Sur le plan psychologique, nous devons gérer ce qu'on appelle cette problématique de perte, c'est-à-dire que nous devons gérer cette situation d'avoir perdu une part de notre intégrité dans l'amour. C'est la naissance d'un vide qui cherche à être comblé. Et ceci constitue un repère fondamental dans les comportements humains et psychologiques. L'individu est en quête de remplir ce vide existentiel, et ceci depuis le péché originel. Et nous avons tous à assumer cette condition humaine blessée. Et lorsque l'on parle de blessure, on parle aussi de guérison. Et c'est là où chacun de nous peut avoir recours à deux types de thérapies, entre guillemets. La première thérapie, c'est celle de la guérison par Dieu et en Dieu. Et on sait, en tant que chrétien, que Dieu peut tout guérir. Mais nous sommes libres de lui donner l'espace pour agir et guérir. On peut donc avoir recours à une vie de foi en vivant, entre autres, des prières de guérison, des démarches d'agapé, des sessions d'Henri Lemay qui lui propose des prières de guérison chrétienne. Ces démarches de guérison spirituelle sont un chemin possible et nous le proclamons à chaque messe en disant « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » C'est vraiment une aspiration de tous les jours. La deuxième thérapie, c'est la guérison à l'aide de la psychologie, avec diverses approches possibles. Mais il faut bien savoir que le but de l'accompagnement psychologique, c'est vraiment de poser un regard sur le passé pour apaiser le présent et concevoir le futur plus léger. Et c'est un peu ce que l'on adresse au Seigneur en lui disant « Seigneur, je confie mon passé à ta miséricorde, mon présent à ton amour et mon futur à ta providence. » Ces deux chemins de guérison, spirituel et psychologique, sont donc compatibles et complémentaires, et l'un peut conduire à l'autre, et inversement. Pour en revenir à notre blessure originaire, revenons au péché originel. À partir de notre condition humaine blessée, on a vu que l'enjeu se situe autour de l'amour. Nous avons perdu la perfection de l'amour proposée et donnée par Dieu. Mais de quelle condition humaine parlons-nous ? Nous sommes tous, entre guillemets, des blessés de la vie, depuis les origines, depuis ce péché originel où le mal est entré dans le monde. Les blessés de la vie, c'est une expression courante dans le domaine de la psychologie et dans le domaine de la pathologie humaine. C'est la condition de l'homme en souffrance, cabossé, bousculé, égaré, en recherche d'un bonheur perdu. Le bonheur de l'absolu de l'amour, offert par Dieu, car Dieu est amour. Dieu n'avait pas d'autre plan, d'autre espérance, que l'amour absolu pour l'humanité. Mais que s'est-il passé ? C'est à partir du récit de la Genèse que nous comprenons l'introduction du mal dans le monde. Dans le chapitre 2 de la Genèse, au verset 16 et 17, nous lisons « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dieu nous prévient. Le risque est fort, puisqu'il est vraiment question de vie ou de mort. Le choix est de vivre en Dieu ou de mourir à cette vie en Dieu. Mourir à cette vie dans la perfection de l'amour. Et dans le chapitre 3 de la Genèse, on découvre la nature de ce péché originel, qui est un péché d'orgueil. Quand le serpent dit à Adam et Ève, au verset 5, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » En effet, Adam et Ève se mettent d'égal à égal avec Dieu. Ils se prennent pour Dieu et il est là, le péché d'orgueil. Et la blessure du péché d'orgueil se répand dans toute l'humanité. Par ce péché d'orgueil, Adam et Ève ont accès à la connaissance du bien et du mal, d'où l'introduction de cette force du mal dans le monde. Cette force du mal qui est ce refus de l'amour tel que Dieu nous l'avait proposé. L'homme se croit donc au-dessus de Dieu par orgueil. Il pense pouvoir compter uniquement sur lui-même. Et notre condition humaine est entachée par cette perte de l'absolu de l'amour, de la perfection de l'amour de Dieu. On passe à une humanité blessée, d'où la naissance de l'homme blessé et la notion des blessés de la vie. Et pour illustrer l'homme blessé, je prends parfois l'image d'un vase fêlé qui perd au goutte à goutte ce plein d'amour auquel nous étions appelés. Mais nous sommes tous des fêlés de la vie, et nous laissons tous passer de la lumière, et c'est vraiment là l'espérance de Dieu en nous. Alors, par cette faille du péché originel, c'est l'introduction du mal qui s'opère dans le monde avec tous nos refus d'amour, et par voie de conséquence, nous tournons le dos à Dieu par choix délibéré de vivre sans Dieu, de se passer de lui, et c'est toute la question de nos écarts envers le Seigneur, face à son commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais c'est dur d'aimer comme Dieu nous aime, et nos limites humaines nous font parfois tourner le dos à Dieu, plutôt que de prendre son chemin. Nous prétendons parfois être au-dessus de Dieu, notre liberté est de décider de ce choix de vie, avec ou sans Dieu. Dieu propose, et l'homme dispose. Et toute l'humanité est touchée par cette fragilité humaine de se laisser tenter par l'orgueil, par ce refus de l'amour selon le plan de Dieu. Cette blessure d'amour, elle conditionne notre vie tout entière. Et inconsciemment, et en psychologie, l'inconscient est important, nous sommes en perpétuelle quête de guérison de cette blessure. Donc par voie de conséquence, notre vie humaine et notre psychologie sont marquées par cette notion d'avoir perdu l'amour parfait donné dans le plan originel de Dieu. La condition humaine devient celle de l'homme qui se laisse séduire et tenter par cette force qui s'oppose au plan de Dieu. Cette puissance à aller à l'encontre de la volonté de Dieu est appelée le mal, le péché, le malin, le tentateur, le diable, le diviseur, et peut-être d'autres termes encore. C'est le combat que l'homme va mener toute sa vie. Et nous le proclamons dans le Notre Père en disant « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Donc il est très important, par rapport à cette notion du mal, de prendre conscience de cette puissance du mal. Et il faut faire très attention à ne pas nier l'existence du mal. Car en niant son existence, c'est donner au mal et au malin et au diviseur encore plus de force et d'emprise sur notre vie. Car quand on ne reconnaît pas la présence des diviseurs, la conséquence directe est de ne pas s'en méfier et ainsi de ne rien faire pour s'en défendre. Donc la place est libre et le tentateur s'installe dans notre vie à notre insu. Nous sommes vulnérables de ne pas avoir mis en place des défenses contre la puissance du mal. D'où cette blessure originelle du péché d'orgueil découlent les dispositions humaines en lien aux notions d'amour et de manque d'amour qui s'entrechoquent à longueur de vie et qui font le lit de notre psychologie. La nature humaine est souvent divisée et tiraillée entre deux pôles, et c'est justement ces deux pôles, être aimé et ne pas être aimé. En psychologie, on retrouve dans les comportements cette gestion des deux pôles qui conditionne nos attitudes, nos réactions et nos relations. Alors en psychologie, on parle de pulsion de vie, pulsion de mort, d'amour, de haine, de conflit et de recherche de compromis, de dépendance et d'accès à l'autonomie, de rivalité, d'identification. Et on parle aussi de principe de plaisir et de principe de réalité avec ces notions de désir et d'interdit. Et dans le cas du principe de plaisir et du principe de réalité, prenons le cas du bébé qui appréhende les notions de désir et d'interdit avec les limites et les règles qui vont de pair. Alors même si pour le bébé les règles ne font pas toujours plaisir, elles sont structurantes pour l'enfant, elles sont là pour l'aider à bien grandir. Alors du point de vue de l'enfant, il dira, par exemple, « Cela ne me fait pas plaisir d'arrêter de jouer pour aller me coucher. » Alors du point de vue des parents, ils diront « Je respecte l'heure du coucher pour le bien-être de mon enfant. » La réalité de l'enfant qui doit se coucher est un renoncement au plaisir de jouer. Mais l'enfant réalise que le plaisir n'est pas insurmontable et qu'il est bon pour lui, que le déplaisir, pardon. Donc l'enfant réalise que le déplaisir n'est pas insurmontable et qu'il est bon pour lui. Et c'est cela, l'éducation à la frustration. Et cette notion de gestion de la frustration ne remet pas en question l'amour des parents pour leur enfant, et inversement. Alors même si parfois l'enfant obéit pour faire plaisir aux parents, de peur de perdre leur amour. Donc l'enjeu est lourd dans les relations humaines, avec cet enjeu envers ces deux pôles, être aimé, ne pas être aimé. Pour en revenir à cette notion que Dieu nous a créés pour vivre dans l'amour absolu, notre soif inconsciente est de retrouver la plénitude de l'amour perdu, de l'amour blessé. Les conséquences directes envers cette situation de perte de la perfection de l'amour se traduisent sur nos ressentis psychologiques par une sensation de manque, une sensation de vide, une sensation de perte qui marque notre condition humaine. Donc cette problématique majeure de la psychologie humaine, qui est la peur de perdre, se traduit par l'impression de manquer d'amour, ou la peur de manquer d'amour, ou parfois la réalité de manquer d'amour. Et il peut y avoir l'apparition de deux sentiments. Le sentiment d'indignité à être aimé, c'est lorsque l'on se dit « je suis nul, je suis bon à rien », avec une forte baisse d'estime de soi et de confiance en soi. D'où l'importance de dire à un enfant ou même à un adulte « ton comportement est regrettable » plutôt que de lui dire « tu es nul ». Ne pas stigmatiser tout entier la personne. Un autre sentiment, c'est le sentiment de fausse culpabilité. C'est lorsque l'on se dit « je suis coupable, c'est de ma faute ». Se sentir coupable à tort. Alors c'est le cas de l'enfant qui voit souffrir quelqu'un autour de lui. Il croit souvent que c'est de sa faute. Il s'attribue la responsabilité du malheur d'autrui. D'où l'importance de rassurer l'enfant en lui expliquant « ce n'est pas de ta faute si maman est triste, si maman est fatiguée. Ce n'est pas de ta faute si papa ne peut pas t'emmener à l'école ou si papa se met en colère. » C'est important de formuler ces choses-là pour l'enfant. Donc on peut voir que cette peur de perdre, elle s'invite dans nos vies et se travestit sous le visage des angoisses, des fragilités, des anxiétés, des obsessions, des conflits, des maladies et parfois des certaines formes de pathologies. On remarque donc combien cette peur de perdre conditionne les comportements humains. Et c'est très frappant de voir le nombre d'expressions courantes en français qui engagent la notion de perte. On parle donc de perdre sa vie, perdre un proche, perdre son travail, perdre son temps, perdre connaissance, perdre les pédales, perdre la mémoire, perdre un match, perdre quelqu'un de vue ou perdre le contrôle de la situation. Et il y en a bien d'autres. Face à ce phénomène psychologique autour de la peur de perdre, se produit la réaction suivante. À cet événement douloureux de la notion du sentiment de perdre, va naître une sensation désagréable qui va provoquer une réaction adaptée ou désadaptée pour se défendre de cette souffrance occasionnée par la peur de perdre ou la peur de manquer d'amour. Donc par exemple, à l'événement douloureux du bébé qui est séparé de sa maman, va naître la sensation désagréable du bébé de se sentir perdu, voire même abandonné, ou d'avoir l'impression d'être perdu et abandonné, ce qui va provoquer chez le bébé une réaction de défense pour assumer, pour déguiser cette souffrance de la peur de perdre l'amour de sa maman. D'où des réactions telles que ne pas se nourrir correctement, ne pas s'endormir comme d'habitude, avoir de l'eczéma, faire une colère inhabituelle ou des crises d'asthme, et bien d'autres réactions et comportements qui traduisent cette anxiété de l'enfant. On voit donc que les comportements adaptés ou désadaptés tendent à combler ce manque et ce vide face à la perte de notre nature parfaite. On passe notre vie en quête de réparation pour retrouver le bonheur perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, devant tout cela, veut nous sauver. Dieu veut nous sauver, il propose donc de nous accompagner par cette invitation à une vie chrétienne, une vie de foi. Cette prise de conscience de cette invitation à vivre avec Dieu va tout changer dans notre vie. Nous avons la possibilité de passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire, en deux mots. Une vie en dehors de l'ordinaire, une vie d'une qualité supérieure, et c'est la promesse du bonheur de vie avec Dieu. Nous allons pouvoir assumer notre blessure originelle du péché d'orgueil avec le soutien de la toute-puissance d'amour de Dieu. Car devant ce fléau du péché d'orgueil, Dieu met en œuvre un plan pour sauver l'humanité. Il va nous racheter de nos péchés en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu nous aime tellement qu'il a donné et livré son Fils unique pour nous, pour rétablir ce plan d'amour pour l'humanité. Et quand on dit « Jésus nous a rachetés de tous nos péchés », c'est qu'il prend à son compte tous nos péchés pour nous inviter à une renaissance, à une guérison intérieure. Alors cette notion de racheter nos péchés est parfois un peu complexe et on peut en parler en prenant l'exemple d'un grand frère qui librement se dénonce à la place de son petit frère pour endosser et pour porter la faute à sa place. Ce grand frère prend à charge la bêtise de son petit frère pour éviter que le petit frère se fasse gronder. Et le grand frère va donc subir les conséquences de cette faute à la place du petit frère. Et c'est bien le cas du Fils de Dieu, Jésus, qui porte le péché d'orgueil de l'humanité à notre place, au prix de sa vie, et en proposant à l'homme un chemin de salut, d'où cette vie de la passion et de la résurrection du Christ. Devant cette proposition, c'est à de vie de foi et de vie avec Dieu, c'est à nous de choisir le chemin avec Dieu ou le chemin sans Dieu. Nous sommes libres de lui répondre, oui ou non. C'est à nous d'accepter ou de ne pas accepter de grandir avec Jésus, par Marie, dans l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons ce choix de prendre pour ami et modèle le Fils de Dieu. Et Dieu nous dit « Ne crains pas, je suis ton Dieu. C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as dû prier à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. » Donc on voit vraiment que Dieu fait le premier pas. C'est lui qui nous a choisis pour vivre cette grande rencontre. Car il sait que face au péché originel, il faut combattre l'orgueil. Et pour vivre ce combat, c'est vraiment marcher à contre-courant. Il faut être armé. Et pour cela, c'est pour cela que Jésus nous propose de le suivre. Il nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est cette invitation sur le chemin de la foi à laquelle nous sommes conviés. L'enjeu de la vie est lourd, c'est un enjeu autour de l'amour, mais nous sommes tous appelés au bonheur chrétien. Si nous accueillons notre blessure, nous découvrons que Dieu s'y loge. Dieu nous rend capables d'aimer, Dieu nous donne cette capacité d'aimer, possible à condition d'être en relation. Donc c'est une invitation à faire alliance avec Dieu, car nous sommes des êtres de relation. Et c'est ce que nous aborderons une prochaine fois. J'ai une phrase de Saint Jean-Paul II qui nous dit « Auprès du cœur du Christ, le cœur humain reçoit sa capacité d'aimer. Auprès du cœur du Christ, le cœur humain reçoit sa capacité d'aimer. » Et cet appel à la civilisation de l'amour retentit aussi avec force par la voix de Sainte Thérèse de Calcutta, qui nous dit « Le manque d'amour est la plus grande pauvreté ». Pour conclure, j'aimerais vous confier quelques mots du pape François, qui nous interpelle en nous disant « Qui est plus grand, Dieu ou le péché ? Qui ? Et qui gagne à la fin ? Dieu ou le péché ? Dieu est capable de vaincre le plus gros des péchés, le plus honteux, le plus terrible, le pire des péchés, il est capable de le vaincre. Avec quelle arme Dieu triomphe du péché ? Avec l'amour. Et un autre petit mot du pape François qui nous rappelle, qui dit « Mes pères, je suis faible. Je suis faible, je tombe et je retombe. Et si vous tombez, relevez-vous. Quand un enfant tombe, que fait-il ? Il tend ses bras vers son père et sa mère pour qu'il le relève, qu'il le remette sur ses pieds. Faisons de même avec Dieu. Si nous tombons dans le péché par faiblesse, tendez les bras vers le Seigneur afin qu'il vous aide à vous relever. C'est cela la dignité du pardon de Dieu.
Alors, je crois que dans la continuité de ce que vous venez nous enseigner, vous aviez un beau texte à nous lire.
Oui, tout à fait. C'est un texte qui est écrit par Sainte Thérèse de Calcutta et qui s'appelle « Je t'aime tel que tu es ». C'est vrai que j'avais envie de vous le confier. Voilà, je le lis. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. C'est vrai, je me tiens à la porte de ton cœur jour et nuit. Même quand tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse être moi, c'est moi qui suis là. J'attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation qui me permettra d'entrer chez toi. Je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras, je vais réellement venir. Je serai toujours là, sans faute. Silencieux et invisible, je viens, mais avec l'infini pouvoir de mon amour. Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec tout l'amour que j'ai pour toi. Un amour au-delà de toute compréhension. Un amour où chaque battement du cœur est celui que j'ai reçu du Père même. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi dans toutes mes blessures. Je vais t'apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton cœur. Je viens avec mon pouvoir, capable de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. Je viens avec ma paix pour qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. Je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés. Rien de ta vie n'est sans importance à mes yeux. Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins, de tes soucis. Oui, je connais tous tes péchés. Mais je te le redis une fois encore. Je t'aime. Non pas pour ce que tu as fait, non pas pour ce que tu n'as pas fait, je t'aime pour toi-même, pour la beauté et la dignité que mon Père t'a donnée en te créant à son image et à sa ressemblance. C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as souvent ternie par le péché, mais je t'aime tel que tu es. Sainte Thérèse de Calcutta.
Eh bien, merci pour voilà, très belle prière.
Oui, effectivement, qui fait écho un peu à tout ce qu'on a dit et à cette condition humaine entachée, mais Dieu nous aime tel que nous sommes.
On voit effectivement que le péché fait beaucoup de mal, en fait, abîme beaucoup nos âmes. Alors, vous êtes un peu médecin. Un petit peu médecin dans la psychologie aussi, médecin des âmes, les prêtres sont médecins des âmes, mais vous en avez une autre partie, et je suis certaine que c'est vraiment, enfin, avec la foi, vous devez faire de très très belles choses, vraiment restaurer un peu les âmes qui sont abîmées par le péché, ça doit être vraiment extraordinaire de le vivre dans la foi.
Oui, c'est vrai que c'est vraiment très complémentaire parce que voilà, le psychologue n'est pas un accompagnateur spirituel, n'est pas un prêtre, et inversement, le prêtre n'est pas un psychologue. Donc c'est vraiment dans cet esprit qu'il y a cette complémentarité très très intéressante et très riche pour pour la personne qui souhaite être accompagnée d'un point de vue ou d'un autre. Et que c'est absolument complémentaire, et c'est vrai qu'avec on sait aussi que voilà, tout est restauré par la puissance de Dieu et de son amour pour nous.
Et de votre prière.
Voilà.
Alors aussi, est-ce que les personnes qui n'ont pas la foi, est-ce que vous pouvez au travers de votre aide, de votre accompagnement, voir des cœurs s'ouvrir, justement, reconnaître Dieu, même si parfois vous ne pouvez pas forcément utiliser, effectivement expliquer clairement que Dieu est là et qu'il les aime. Mais je pense que dans ce que vous êtes, certainement ça passe au travers de vous.
Alors, c'est vrai que, effectivement, pour des personnes qui ne sont pas croyantes, on peut tout à fait restaurer quand même l'être et pouvoir ouvrir des portes sur la vie. Alors, dans ces cas-là, c'est vrai que c'est pas forcément Dieu qui est évoqué, mais c'est cette puissance de vie, cette puissance d'amour. Et l'amour, quand même, est souvent évoqué pour permettre à la personne de se relever. L'amour pour la vie, l'amour de la vie. La vie, parfois, prend ce nom de Dieu sans pouvoir forcément le nommer. Mais c'est important, oui, de vraiment réaliser que dans les thérapies, il n'est pas question de parler de Dieu à l'insu du patient, et que si lui ouvre cette porte, bien sûr qu'à ce moment-là, on peut vraiment travailler et accompagner la personne avec cette dimension déclarée de sa part. Mais c'est vraiment au patient à pouvoir déposer cette dimension s'il le souhaite, et travailler et œuvrer avec, qui évidemment est toujours très, très complémentaire et très enrichissant. Et c'est là où, au début, je parlais d'unité, et qu'on est vraiment dans cette quête de l'unité de la personne sur le plan humain et sur le plan spirituel, et que ça permet vraiment de tendre à cette unité que de pouvoir composer sur le plan à la fois psychologique et spirituel, ou spirituel et psychologique.
Et lorsque un patient vient et qu'il vous déclare ouvertement cette foi, est-ce que l'aiguiller est plus facile, du coup? Est-ce que son âme sera plus réceptive?
Écoutez, après, alors non, je pense pas que c'est plus facile. C'est simplement une grande porte qui s'ouvre par ailleurs. Vous voyez, c'est vraiment une dimension dans laquelle on peut se plonger avec cette personne, et qui va lui donner lui aussi des ficelles sur lesquelles il va pouvoir se restaurer, se guérir si besoin. Et c'est vrai que la guérison spirituelle, elle n'est pas de l'ordre du psychologue. Vous voyez, donc on est vraiment dans cette dimension où la personne, si la personne ouvre cette porte à la guérison spirituelle, ou a envie de faire une démarche dans cette dimension de guérison spirituelle, eh bien c'est effectivement c'est un autre domaine qui s'ouvre, mais qui est vraiment porteur de beaucoup de fruits, et qui encore une fois est très complémentaire à cette dimension plus psychologique et humaine sur laquelle on peut travailler d'un point de vue hors spirituel.
Alors, en tout cas, on se rend compte effectivement à quel point le péché, l'entrée dans le monde du péché, a fait beaucoup de dégâts. Je rends grâce qu'il y ait des psychologues aussi pour vraiment réparer tout ça.
Et, oui. Et juste... Enfin, Dieu est à l'œuvre.
Oui.
Non, on n'est pas tout seul.
Tout à fait. Merci en tout cas d'être là et de réparer ce qui a été fait, et puis d'ouvrir les yeux à tous ceux qui viennent vous voir.
Mais oui, et puis vraiment toujours dans cette espérance que justement Dieu est là pour nous restaurer, nous proposer une renaissance. Et ça, c'est vraiment dans c'est gloire à Dieu et gloire à lui de pouvoir nous proposer cette renaissance dans cette vie de foi à laquelle chacun est invité à y entrer.
Alors, nous arrivons bientôt au terme de l'émission. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire justement à nos auditeurs en conclusion?
Oui, écoutez, je pense que justement ce sujet était quand même un peu, lourd, dans le sens où le péché originel, c'est toujours lourd. De savoir se mettre un peu dedans et de pouvoir le regarder dans une dimension un peu humaine, parce que justement c'est notre humanité tout entière qui est touchée par ce péché originel, et pour autant on n'est pas on n'est pas réduit à ce péché originel, et qu'il y a toute cette dimension justement de restauration, de renaissance et d'espérance que le Seigneur nous propose, que Dieu nous propose, et que vraiment on a ce grand chemin de résurrection. si je peux l'appeler ainsi, de pouvoir se laisser guérir au goutte à goutte par cet accompagnement du Seigneur, enfin par le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et avec, voilà, sous le regard de tendresse de la Sainte Vierge aussi, qui nous amène à cette vie, enfin qui nous amène et qui nous apprend à suivre, voilà, le Christ petit pas par petit pas, et que nous sommes tous en chemin, et que ça, c'est vraiment l'espérance que Dieu a pour, voilà, pour toute l'humanité.
Eh bien, un grand, grand merci pour tout ça.
Ben, merci à vous, et puis à bonne, très belle journée à chacun et à tous les auditeurs qui nous écoutent.
Merci beaucoup, passez une bonne journée, on reste en union prière.
Oui.
Merci. Au revoir.
Au revoir.